C'est formidable, mes amis. J'ai à côté de moi Christian qui dit « Prions ». Eh bien, nous allons prier. Vous voyez, c'est quand même formidable. Seigneur Jésus, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Parle à notre cœur aujourd'hui et donne-nous la joie de vivre, la joie d'être avec toi pour toujours. Et la joie d'aimer les autres, comme toi tu les aimes tous. Donne-nous la joie d'aimer la vie et d'être plus fort que la mort, plus fort que la dépression, que le découragement, plus fort que les pensées du diable, que les mensonges du monde. Donne-nous la joie et la force d'être dans la vérité. Avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On a l'impression parfois, chers amis, que la situation humaine est burlesque. Burlesque.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle est bien gérée et à tout moment mal gérée. Et on découvre parfois que ceux qui nous dirigent n'ont pas été à la hauteur. Et qu'on ne sait pas qui choisir. Et quand on va voter, on ne sait plus qui choisir. La situation devient burlesque et elle est difficile pour nous. Nous ne pouvons pas nous moquer de ces personnes qui nous dirigent, parce que nous ne ferions pas mieux, je pense. Le Seigneur nous demande de prier pour ces personnes, pour les autorités et pour l'administration. Quels que soient leurs défauts, nous en avons aussi. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous tous, pour eux comme pour nous. Donc prions, bénissons-les. Si nous les maudissons, tout ira encore plus mal. Demandons à Dieu de bénir nos autorités. Au nom de Jésus. Amen. Donc on a l'impression que la situation devient burlesque. C'est la situation. Et qu'elle n'est plus gérée vraiment par personne. L'odyssée humaine, avec évidence, semble être sans issue. Plus on avance au niveau de l'écologie, au niveau de l'énergie, des ressources énergétiques, au niveau du nombre des habitants sur la Terre, et de la nourriture qu'il faut pour tout ce nombre, on a l'impression qu'il y a une évidence qu'on ne veut pas voir, comme l'autruche qui met la tête dans le sable. Personne ne veut faire le premier pas d'un changement complet. Un changement complet, et ça s'appelle repentance dans la Bible. Métanoïa, c'est changer de vie. Et personne ne peut bouleverser les priorités de ce monde établi. Personne ne peut. Parce que tout le monde serait hostile. Personne ne peut renverser les priorités inversées du système établi. Même si nous savons tous que les valeurs de ce monde sont fausses, personne ne peut. Parce qu'elles sont verrouillées. Le navire va droit sur l'iceberg qui est là, droit devant. Les sirènes du navire ont résonné depuis quelque temps, depuis quelques années, par les écologistes, par d'autres hommes, par des penseurs, des philosophes, etc. Des analystes scientifiques. Les sirènes du navire ont résonné. Et malgré tout, le Titanic a continué, alors que les cloches sonnaient, a continué à aller tout droit. Alors que l'iceberg venait devant. Certains, malgré tout, prennent parfois des embarcations de secours et cherchent une solution pour leurs problèmes, indépendamment des autres. Ils vivent dans la montagne comme un ermite avec des brebis, etc. Se priver de voiture et apprendre à vivre avec pas grand-chose, tout simplement. C'est un peu les embarcations de secours du Titanic. On ne sait pas où on va, mais en tout cas, on n'est plus dans le bateau. Actuellement, beaucoup s'émeuvent et quelque part sont pris d'angoisse, voire de terreur, sur ce bateau. Et comme disent certains médecins, certains analystes réputés, l'après-coronavirus sera plus compliqué. Il y aura des troubles psychologiques à n'en pas finir, il y aura un gros problème psychologique à gérer et psychiatrique à gérer dans nos pays. Et je pense que ce phénomène d'angoisse, d'émotion et de terreur qui est survenu sur le bateau est l'expression d'une vie sans Dieu, sans foi, sans paix, sans lumière, sans relation au Créateur. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Dans le psaume 111, au dernier verset, il est dit que celui qui a la crainte de Dieu, et l'amour de Dieu évidemment, a une raison saine. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de recourir à la psychiatrie, aux médicaments. La raison saine. Donc de manière très adroite,
je vous le mets en cours.
Dans ce bateau qui va tout droit vers l'iceberg, certains jouent du violon, chantent et défient le moment fatal où la civilisation risque de s'écrouler. Et ces personnes qui jouent du violon, qui s'amusent, qui chantent dans le bateau, ben, il y en a toujours. Dès le moment qu'on peut refaire une grande fiesta, pour un certain temps, ou des fiestas à ne plus en finir, et se défouler à l'entour des terrains de football, tout cela ressemble un peu à ce qui s'est passé dans le Titanic pendant tout un temps, avant que ces personnes ne meurent. C'est une façon de défier le moment fatal, puisqu'on ne sait pas le gérer, autant s'amuser jusqu'au bout et jouir jusqu'au bout, aveuglément. L'image du Titanic qui se coule nous rappelle bien ce comportement présomptueux du commandant de bord, qui, au port où il a démarré le bateau, a dit aux journalistes, même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau. Et bien, depuis de très nombreuses années, les dirigeants de ce monde et les philosophes ont décidé que le bateau continuerait sans Dieu et personne ne pourrait le couler. C'est la même attitude que celle du commandant de bord du Titanic. Or, ce monde tremble. Je vois ce monde comme une planète échauffée qui se dessèche, aux forêts qui brûlent de plus en plus, ou qui périssent par des virus, même dans nos forêts vertes, et par des champignons. Et depuis mon enfance, je vois réellement que les déserts ont progressé sur cette terre, que les injustices ont augmenté. J'ai toujours espéré, toute ma jeunesse et toute ma vie, contribuer à la justice et à l'établissement de bonnes relations avec les humains. Je l'ai toujours espéré. Je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas toujours été adroit. J'ai parfois été un grand pécheur qui a fait le contraire de ce que je pensais, que j'aurais dû faire. Mais en tout cas, j'avais la soif de cette sagesse et de ce respect de la vie. Beaucoup d'autres l'avaient aussi. Mais une grande majorité ont voulu le plaisir avant tout. Et comme disait Nietzsche dans ses écrits, cette civilisation qui aime le plaisir perd l'amour du vrai. Et je pense, chers amis, que l'amour du vrai et l'amour du plaisir ne vont pas ensemble. C'est cela qui a perdu notre société. Je vois au milieu de ce monde qui se meurt, je vois quelque chose d'infiniment burlesque, à un autre niveau. C'est le petit homme de Nazareth, le petit Jésus, fils du charpentier, sans diplôme, qui n'a pas fait l'école rabbinique, qui n'a pas de compte en banque, qui n'a pas de missile, de porte-avions, qui n'a jamais voulu d'armée, qui fut détesté et rejeté par le monde athée de son époque, parce qu'il y avait un monde athée à son époque, et athéiste, qui combattait Dieu, et puis il y avait un monde religieux, qui n'aimait pas toujours Dieu non plus, ni les autres, mais qui était convaincu d'être en accord avec Dieu. Et cet homme détesté a été catalogué d'envoyé du diable par les religieux. Comment espérer qu'un petit homme de cette taille, qui n'a pas eu de succès, pas du tout, que ce petit homme de Galilée donne une issue à ce monde d'aujourd'hui, qui se perd inexorablement, de plus en plus. Comment cela se peut-il? C'est un défi pour tous les orgueilleux et pour tous les prétentieux, pour tous les savants et tous les sages, à leurs propres yeux. Je pense que c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu défier les hommes intelligents, les sages, les présomptueux, les vaniteux, par quelqu'un qui est apparu sans signification et sans succès. Mais c'est quelqu'un qui a du fruit et non pas du succès. Ce Jésus, ce petit homme qui se traîne un jour vers une colline qu'on appelle le mont du crâne, c'est-à-dire Golgotha, hein, ce mont des morts, ce mont où on crucifie les malfaiteurs, où personne de bien ne va, où on ignore tous ceux qu'ils ont crucifiés là. On pense que c'est très bien pour eux d'être crucifiés là et de pourrir là. Eh bien, ce petit homme se traîne vers ce mont du crâne. J'ai vu ce mont du crâne. C'est le mont de la mort. Jésus a porté sur la croix, lui qui est vivant, qui est sans péché, ce mont mort sur lui. Il a voulu porter la mort et le péché. Il a tellement porté que lui qui ne devait pas mourir en est mort. Et il l'a tellement porté par amour pour nous que Dieu, son Père, l'a ressuscité. Jésus de Nazareth est ressuscité à cause de son grand amour. Il est venu sur terre pour nous sauver, afin qu'aucun de nous ne périsse. Aucun de nous. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, afin qu'aucun de nous ne périsse. Sur ce mont a été élevé un bois. Et on a mis un homme, cet homme insignifiant, dont on n'a pas voulu, on l'a mis sur ce bois, et on l'a considéré comme l'envoyé de Satan. Eh bien, figurez-vous que vers les années 1320, donc environ 1350 ans avant, dans le désert, sur une colline aussi, un bois a été dressé par Moïse, sur lequel il y avait un serpent d'airain en bronze. Ce serpent d'airain représente Satan. Satan qui est attaché au bois. Et cela préfigure, et ces gens qui étaient alentour devaient le regarder. Satan était condamné au bois, à l'échec. Il fallait regarder cette condamnation de Satan pour que ces gens échappent à l'empoisonnement dû à tous ces nombreux serpents, ces aspics qu'il y avait dans le désert. Eh bien, sur ce bois, au mont de Golgotha, à Jérusalem, sur ce bois où Jésus de Nazareth a été considéré comme Satan et a été crucifié, ce bois est pourri, mais cet homme considéré comme Satan est un saint, c'est le juste, c'est le prince de la vie. Pierre a prêché à toutes les foules, c'est le Fils de Dieu. Et il n'y a pas eu des milliers de juifs au désert, comme au désert à l'époque de Moïse, pour le regarder, pour être sauvé du poison des serpents. Mais il y a eu le centurion qui a dit « Celui-ci était le juste, le Fils de Dieu ». Il y a eu le brigand qui a dit « Aujourd'hui, si tu veux bien, prends-moi dans ton paradis ». Deux personnes ont regardé celui qui était condamné, considéré comme Satan, sur le bois, l'ont regardé comme le prince de la vie et comme le sauveur. Ils n'ont donc pas perdu leur temps à être là. Ils ont reçu un message de vie. Tout a recommencé pour eux. Ce moment qui s'est passé entre eux et ce Jésus de la croix qui se mourait et qui les regardait, ce moment où leurs regards se sont croisés, ce moment où, dans leurs oreilles, ils ont entendu « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font !» Dans ce moment-là, ils ont bien compris que Jésus n'était pas l'envoyé de Satan, mais il était le prince de la vie. Et il était la source de la vie pour eux. Ils ont reçu la vie éternelle. Dans leur cœur, Dans leur cœur, ils ont vu que cet homme bafoué, cet homme qui n'était pas considéré, cet homme qui a été accusé d'être blasphémateur, imposteur, qui est accusé de venir détruire la religion et la nation, cet homme qui se trouva crucifié sur le mont du crâne, cet homme qui a été malfaiteur parmi les malfaiteurs, comme l'a annoncé Ésaïe, oui, 780 ans avant. Cet homme qui fut mésestimé, incompris, désapprouvé, vu comme un Satan destructeur, eh bien cet homme a donné la vie à ce brigand, à ce malfaiteur, la vie éternelle. Il a donné le pardon et il a ouvert les portes du ciel pour lui. Et à ce centurion aussi. Si la mort a été réclamée par la foule aveugle et par les chefs au nom de Dieu, si la mort a été réclamée, Dieu avait prévu de donner la vie par la mort, réclamée par des stupides, des gens stupides et aveugles. Donc dans ce lieu sinistre du monde de la mort, naquit la vie éternelle pour l'humanité. Tous les regards qui se sont posés sur Jésus ont eu le choix de voir soit de la vie, soit voir l'envoyé de Satan. Pour ces deux hommes, et sans doute pour des femmes qui étaient là, ces deux hommes qui ont été choqués de voir cette sainteté de Jésus, cette douceur du Fils de Dieu, cet amour pour eux sur la croix, cet amour pour les soldats qu'il avait crucifiés, cet amour pour les prêtres qui se moquaient de lui, cet amour pour sa nation et pour tous les hommes. Ces hommes qui ont été choqués ont été animés par une profonde douleur, la douleur de l'incompréhension qu'on a manifestée à Jésus, la douleur du rejet qu'on a donné à Jésus. Ils ont compris la douleur de Jésus et ils ont été dans la douleur eux-mêmes. Ils ont vu la douleur de l'amour divin. Ils ont vu la grandeur de l'amour divin. Et ils ont abaissé leurs yeux. Ils se sont reconnus comme semblables à tous ceux qui étaient autour d'eux. Ils ont laissé leur orgueil de côté. Leurs âmes ont été bouleversées. Elles ont découvert le don de vie, le don de pardon et d'amour de Jésus. Ils ont découvert que l'éternité est arrivée sur la terre, que la vérité qui n'existait nulle part est arrivée là, par Jésus de Nazareth. Ils ont découvert que le pardon était offert gratuitement, et dans ces instants-là qui se sont passés, leur cœur a été purifié de toute la crasse, de toutes les mauvaises pensées, de tous les méfaits qu'ils ont vécus, qu'ils fomentaient, qu'ils ont pratiqués. Ils ont été purifiés de leur vie pleine de péchés, reçus de Adam et Ève. Le brigand et le centurion se trouvèrent pardonnés et aimés, à jamais, et ils trouvèrent la vie du ciel en face d'eux dans le regard de Jésus. Dans le sang de Jésus, qui a coulé à la croix. Le pardon est donc venu sur terre. Il n'a pas eu besoin d'attendre de mourir pour éventuellement recevoir un pardon. Lorsque nous regardons dans Marc chapitre 2, verset 10, il est dit ceci, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché sur terre. Marc chapitre 2, verset 10. Et lorsque nous regardons dans Ésaïe chapitre 6, nous voyons que le chérubin qu'envoie, cet archange que Dieu envoie tout près d'Ésaïe, Ésaïe vient de dire « Je suis un homme aux lèvres impures, au cœur impur, je suis dans une nation impure. » Ce chérubin prend une braise prise sur l'autel du ciel et il purifie ses lèvres et son cœur. Voici l'œuvre de Dieu, la purification du péché, le changement de l'état du cœur. Et en cela, Ésaïe, au chapitre 6, a connu cette grandeur de l'amour divin. Cette grandeur. Je vous reprends un verset du livre des Nombres, au chapitre 21, verset 8. Nombres 21, verset 8. Quand le serpent d'airain est sur le bois, ce serpent d'airain qui représente Satan, condamné sur le bois. Dans la mort de Jésus, Satan a été vaincu. Dans la mort de Jésus, suivi de la résurrection, Satan est vaincu. Le roi de la mort a perdu, puisque la vie a gagné. La vie, la résurrection en Christ a gagné sur Satan. Jusqu'à la dernière seconde, avant la résurrection, Satan croyait qu'il avait gagné en mettant le Fils de l'homme sur le bois. Mais non, il a tout perdu. Il a perdu la bataille. Eh bien, dans Nombre, verset 21, verset 8, il est mis ceci. « Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Nous avons tous été mordus par le péché et par Satan. Tous. Nous avons en nous du poison. Nous sommes condamnés à échouer et aller en enfer. Mais si nous regardons Jésus, nous trouvons la vie éternelle. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Nombre 21, verset 8. Oui, reconnaissons que la spique qui nous a tous mordus, Jésus marche sur lui et lui écrase la tête. C'est Genèse, chapitre 3, verset 15. Le fils de la Vierge, donc d'Israël, écrase la tête de Satan. Et nous voyons dans les psaumes 91, 91, il en est de même quand les anges gardent celui qui est dans le tombeau et lui ouvre la porte, hein, psaume 91, il préserve Jésus du tombeau, de la pierre, ensuite il marche, Jésus marche sur l'aspic, le lionceau, le dragon, il écrase Satan. Donc, le moment tragique de la croix est un moment heureux pour nous. Et c'est un moment glorieux pour Jésus. Il a mené le combat jusqu'au bout pour nous, par amour pour nous. Quelle doit être notre reconnaissance à Jésus? Quelle doit être notre joie de savoir que notre vie ne se termine pas au trou et à l'enfer? Quelle joie de savoir que Satan n'a pas d'autorité et que nous n'encourons pas la tragique condamnation de Satan. Satan est condamné à aller en enfer. Nous n'encourons pas la tragique mort de Satan, la mort éternelle, loin de Dieu. Nous serons à jamais avec Dieu en Jésus-Christ. Reconnaissons que l'heure de choisir est venue. Ce n'est pas demain, ce n'est pas à minuit. Quand on entend une conversation, comme celle que je vous tiens, qu'on appelle une prédication, mais sans prétention, quand on entend des mots, comme je vous le dis, ce n'est pas mes mots. Ce sont les mots de la parole de Dieu. Ce sont les mots que Jésus a voulu qu'on dise encore aujourd'hui et qu'on dise encore demain et après-demain. Je ne suis qu'un petit ouvrier. Et ces mots qui sont dits aujourd'hui, il faut les écouter aujourd'hui, pas dire c'est bon pour demain. C'est pas pour demain. Quand vous entendez ces paroles, l'antidote contre le poison de l'aspic, contre Satan, vous est donné au moment même. Si on vous injecte l'antidote, vous échappez à la mort éternelle. Si vous acceptez la parole de Dieu, vous échappez. Si vous acceptez le sacrifice de Jésus pour vous et sa résurrection, vous échappez à la mort éternelle. Et ce n'est pas une invention d'un petit pasteur dans un petit village d'une petite église. C'est le message de la Bible, de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à lire Ésaïe chapitre 50. C'est un texte qui me réjouit et dont je voudrais qu'il fasse votre réjouissance aujourd'hui. Ésaïe 50, versets 2 à 11. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Pensant à Jésus, qui bien souvent, quand les gens avaient eu du pain, avaient eu des miracles, après l'abandonnaient. Et regardez aujourd'hui, pas beaucoup de monde qui court vraiment près de Jésus, le vrai Jésus. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Et vous allez voir qui parle. C'est le Christ, 780-760 ans avant, par la bouche et la plume d'Ésaïe. C'est le Christ qui parle. Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent, faute d'eau, ils périssent de soif. Donc, le Christ, avant de revenir, pour nous réveiller, lance des menaces. Le coronavirus n'en est-il pas un ? Y aura-t-il pas d'autres menaces pour nous réveiller de notre espèce de folle endurcissement ? Par ma menace, et ce n'est pas une menace pour tuer, c'est une menace pour réveiller. Verset 3, je revais les cieux d'obscurité, je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le brigand sur la croix, le centurion, et nous tous qui acceptons Jésus, ne sommes-nous pas abattus à un certain moment donné, quand on voit cette situation, et la nôtre personnelle ? Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire qui s'avance vers moi ? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera ? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Le serviteur Jésus, dont on vient de voir une description à la croix et avant, lors de l'interrogatoire, c'est le serviteur qui écoute la voix de son serviteur. C'est le serviteur souffrant et Ben-Yahvé de Dieu. Quiconque marche dans l'obscurité, et le péché bien sûr, manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. N'est-ce pas cela ? Il nous est adressé à la croix, à la résurrection. Voici, vous tous qui allumez un feu, qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. N'y avait-il pas un feu quand Pierre a trahi Jésus ? Trois fois. N'y a-t-il pas eu des torches pour trouver Jésus parmi les arbres du Mont des Oliviers, pour l'arrêter, pour que Judas l'embrasse ? Vous voyez tous ces textes ? Vous vous rendez compte, 8 siècles avant ? Bien d'autres textes dans la Bible parlent ainsi de Jésus. C'est ainsi que je voudrais vous inviter à recevoir Jésus aujourd'hui. Ne tardez pas. L'histoire humaine s'accélère dans son entêtement, dans les menaces que Dieu fait pour réveiller, et dans la venue de Jésus, bientôt. Jésus, c'est l'anti-séducteur, c'est l'anti-empoisonneur, c'est l'anti-aspic. Jésus, c'est le roi de vérité, c'est le prince de la vie, c'est le juste, c'est le fils de Dieu. Il est tellement ressemblant à Dieu, par sa sainteté, par sa simplicité, sa vérité, qu'il est comme le fils de Dieu. Il a tous les attributs d'un fils qui ressemble à son père. Il est spirituellement, divinement semblable à son père. C'est pour cela qu'il est appelé fils de Dieu. Ce n'est pas qu'il a fallu Marie et la fécondation de Dieu pour faire un fils de Dieu. Non. C'est ça qui choque le Coran. C'est ça qui choque les Juifs orthodoxes. Jésus, qui est né de la Vierge par le Saint-Esprit, est fils de Dieu par sa sainteté. Il est configuré, il est semblable à Dieu dans sa sainteté, dans sa vérité. Et il est venu sur terre pour incarner la vérité et la sainteté, pour nous tracer le chemin et nous le donner, le chemin. Par sa mort, Dieu nous donne l'éternité. Jésus donne la vérité, il donne sa vie. Regardons dans Jean, chapitre 11, versets 25 à 27. Jean, chapitre 11, versets 25 à 27. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marc, bien sûr, dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, donc Messias, l'envoyé de Dieu, le représentant de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Donc voilà une confession telle qu'une simple femme, une femme, comme Marthe et Marie ont pu dire, que le centurion romain a dit, que le brigand, le malfaiteur a dit. Alors, et nous, qu'est-ce qui nous empêche de le dire? Qu'est-ce qui nous empêche de sortir ça de notre bouche, de le confesser de tout notre cœur? Romains chapitre 10. Qu'est-ce qui nous empêche? Ayons le courage de tourner la page sur la vie ancienne, les amis. Ayons le courage de laisser de côté ce qui est inutile, qui est foutu, qui est mort. Tous les bois secs sur un arbre finissent par tomber. Il ne reste que les branches vivantes. Eh bien, pour nous aussi, laissons tomber toutes les branches sèches et gardons le tronc, le bois, le vrai, le vivant, Jésus-Christ. Romains, chapitre 10. Verset 8. Que dit donc la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est pour cela que j'ai prêché comme ça aujourd'hui. La parole est près de toi, dans ta bouche et ton cœur. C'est cela que je veux, cher ami, pour vous, comme pour moi. J'ai écrit cela il y a deux nuits. Je me suis relevé. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ce vendredi? Il y a deux ou trois nuits. C'est venu d'entrée. Bien sûr, j'ai été rechercher des textes après. J'étais au champ, au jardin, j'ai fait d'autres choses. Mais chaque fois, je pensais à ce que j'allais vous dire. Pourquoi? Parce que cette parole ne m'appartient pas. Cette parole doit être forte pour qu'elle touche votre cœur, qu'elle soit dans votre cœur, qu'elle vous sauve. Alors, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, la foi, la parole que j'accepte avec la totale confiance, comme étant la vraie. À côté de ça, il y a beaucoup de paroles de mensonges sur la terre, même dans nos vies. Alors, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire que tu le sors, tu le dis à Dieu, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à justice. C'est-à-dire, justice, c'est le pardon de Dieu. Dieu, étant juge, règne. Tous mes choses mauvaises, mes péchés, il balaye tout ça, il m'innocente et met mon nom dans le livre de vie. C'est ça la justice de Dieu. Il a le pouvoir. N'oubliez pas que Jésus l'a dit dans Marc chapitre 2, verset 10, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. C'est aujourd'hui. C'est pas après votre mort, c'est aujourd'hui. Le pardon que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Allez dans votre chambre, dans l'auto, dans le jardin. Et parlez avec Jésus. Demandez-lui pardon. Il vous pardonnera. Il est vivant. Et vous aurez la paix. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Fini de patauger. Fini d'être comme le Titanic qui avance dans le brouillard, droit sur l'iceberg. Fini de ne plus savoir où on va, pourquoi on se lève, pourquoi on se couche, pourquoi on mange, pourquoi on travaille. Fini, parce que c'est fini d'être tout seul. Vivre avec Jésus, donner son cœur à Jésus, il est vivant. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 20, Jésus a dit, « Je suis au milieu de vous, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Et je continue. Ici dans Romains, chapitre 10, verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire entre un Arabe, un Chinois, un Vietnamien, un Australien, un Afghan, un Turc, un Belge, mangeur de frites, et un Français, un Irlandais, il n'y a pas de différence pour Dieu. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Riche de quoi ? Du pardon. De son amour. De l'amour donné à la croix. À la croix, tout l'amour était donné. Et la porte est ouverte. La porte est ouverte. Il n'y a pas besoin de donner d'or et d'argent à qui que ce soit pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de construire de cathédrale, de basilique, de temple, de mosquée pour être sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque parle à Dieu et prononce le nom de Jésus comme Seigneur dans sa vie est sauvé, les amis. Prenons la première épître de Pierre. Ce Pierre qui ne voulait pas que Jésus meure, parce qu'il l'aimait tellement, il voulait rester avec lui, il voulait que Jésus reste avec lui, parce qu'il ne voyait plus sa vie sans Jésus. Et Jésus lui dit qu'il allait être arrêté par les chefs religieux, livré aux Romains et crucifié, qu'il ressusciterait. Alors, au chapitre 16, Pierre se fâche et dit « À Dieu ne plaise, on s'en fout de ce que Dieu a prévu dans les Écritures, tu ne mourras pas. » Qu'est-ce que fait Jésus dans Matthieu 16? Il dit « Arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes. » Oui, Dieu voulait que son fils meure sur la croix pour nous. Oui, il fallait que Pierre accepte que Jésus meure pour lui. Donc, première épître de Pierre, chapitre 1. Ce brave Pierre, qui refusait tout de la parole de Jésus, qui ne voulait surtout pas qu'il meure. Il ne voyait pas en quoi il fallait aller mourir, comme un renégat, comme un malfaiteur au mont de Golgotha. Ce mont de la perdition, ce mont maudit, comme un malfaiteur. Non, il ne voulait pas de ces prophéties-là, d'Ésaïe 53, d'Ésaïe 50, etc. Eh bien, regardez, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, donc c'est Jésus, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Voilà notre programme, la sainteté. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dieu avait révélé ça à Moïse en 1300 avant Jésus. C'est dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 2. Et si vous invoquez comme père celui qui juge de manière juste, selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, ça veut dire sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc la vie sur terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc on a appris par nos parents et par la société à vivre comme tout le monde. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait. Évidemment, vaine, c'est-à-dire dans la vanité. Dans la vanité, la fierté, l'orgueil, la présomption, eh bien, vous avez été racheté tout ça. Il n'y a pas besoin d'or et d'argent. Parce qu'on en offrait dans le temple à Jérusalem. On en offre partout. Dans toutes les mosquées, dans tous les temples bouddhistes. On offre de l'or et de l'argent à Rome. Et même dans certains établissements protestants. On offre. Pas du tout pour Dieu. Tout cela ne compte pas. C'est de la pourriture. Et déjà dans le livre de Job, il y a 42 siècles, déjà, il y a un texte qui nous condamne cet amour de l'or et de l'argent pour racheter son âme. L'or et l'argent ne rachètent pas l'âme de la perdition, du châtiment éternel. Alors regardons, il est mis au verset 10 ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Alors, le verset 18 à 20, nous avons les contraires, la religion et au verset 19, le sacrifice de Christ. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Dieu avait annoncé à Adam et Ève, en mettant la peau de l'agneau sur eux, à Abel, à Abraham, le sacrifice au mont Morija, le sacrifice de l'agneau, et l'agneau, c'est Jésus, sans défaut et sans tâche, donc sans péché, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le mot fin des temps, j'ai été témoin de Jéhovah, c'est quand Jésus va revenir, etc. Quand il y a des cataclysmes. Le mot fin des temps, eschaton, c'est à partir du moment où Jésus est mort sur la croix et ressuscité. En théologie biblique, autant pour les catholiques, les orthodoxes et les protestants, au sens biblique exact de l'exégèse du texte, c'est au moment de la mort et de la résurrection de Jésus que la fin des temps est arrivée. La fin des temps des péchés. Maintenant, c'est le temps de la grâce, pour celui qui reçoit la grâce. Alors, à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu, parce que Jésus a accompli le sacrifice parfait. Dans son amour, il nous donne le pardon. Est-ce que je veux l'accepter ? Est-ce que je l'accepte ? Prenons Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Nous allons bientôt terminer. Jean, chapitre 1, verset 29. Quand Jean-Baptiste, qui a passé du temps avec 11 bonhommes, pas 12, parce que Judas vient de Judée, Judas Iscariote, c'est un révolutionnaire, un sicaire. Sicaire, ça veut dire poignard. Un sicariote. Il était contre les Romains. Mais les 11 autres viennent de Galilée. Ils ont été enseignés par Jean-Baptiste à connaître les prophéties concernant l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Et quand Jésus vient, Jean-Baptiste le reconnaît et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que dit-il d'autre ? C'est-à-dire qu'il ôte le péché du monde ? Il commence par chacun de nous lorsqu'on présente notre péché, notre cœur, notre âme. C'est pas globalement comme ça, magique. Il faut que chacun de nous offre gratuitement son cœur et son âme et sa vie. Il faut accepter de perdre ce péché. Il faut accepter de perdre cet état de pécheur pour recevoir un état de pardonné, un état de justifié, une nouvelle situation devant Dieu et une nouvelle vie à mener d'obéissance à la sainteté de Jésus. Alors, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, donc c'est Dieu le Père, celui que, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quand nous sommes pardonnés et purifiés de nos péchés en acceptant Jésus, Jésus nous donne ce que nous n'avions pas. Il nous donne la présence de Dieu dans notre vie. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Dans le christianisme, il n'y a qu'un seul temple, une seule maison. C'est ma vie personnelle qui accepte Jésus. Regardons et allons lire Luc chapitre 3, verset 16. C'est un peu avant Jean. Luc 3, verset 16. Chers amis, c'était Pâques. J'ai voulu insister sur ce message de Pâques. Bien sûr, dans les temps qui vont venir, si le coronavirus continue, ou en tout cas, on peut continuer les prédications, même qu'il n'y a plus le confinement, je vous inviterai, je prendrai des cas concrets de vie chrétienne. Je vous montrerai comment on établit une vie chrétienne quand on aime Jésus, quand on lui a demandé pardon, qu'on a reçu l'Esprit Saint. C'est pas si simple. J'essayerai, je ferai mon possible, avec des cas de figure très concrets. Mais regardons pour le moment, finissons-en avec ce qui a été décidé il y a quelques jours. Luc chapitre 3.
Verset 16.
Bon, verset 16. Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc c'est Dieu. Il veut dire que Jésus est Dieu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, donc comme un paysan hein, qui a récolté et qui, dans le vent, soulève et tape le blé. Les nupailles tombent loin avec le vent et le blé tombe au milieu. Hein. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc un feu qui ne s'éteint point, ce n'est pas un feu comme ici, sur terre. C'est un feu, c'est un tourment éternel pour ceux qui sont de la paille, pour ceux qui ne sont pas du grain. Donc, les amis, pourquoi du Saint-Esprit et de feu ? Dans Jérémie, chapitre 23, verset 29, mais nous n'y allons pas, je vous le cite, si vous avez envie de le lire, vous irez. Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc et comme un feu qui purifie ?» Donc, la parole de Dieu, Jésus, il baptise du Saint-Esprit et de sa parole. Il ne faut jamais dissocier la parole de l'Évangile et du Saint-Esprit. Trop de sectes l'ont fait, trop de gens ont voulu séparer l'Évangile, la parole proprement dite, et s'approprier le Saint-Esprit pour faire dire tout ce qu'ils voulaient au nom du Saint-Esprit. La parole de Dieu est un feu qui purifie, est un marteau qui brise le rocher, le péché, c'est-à-dire, et qui est l'occasion de donner le Saint-Esprit. Galates, le Saint-Esprit de Jésus est toujours donné par la parole de Jésus et par Jésus, qui ne font qu'un. Galates. Chapitre 3. Donc c'était des chrétiens du centre de la Turquie. Galates, ça vient du mot gaulois. C'était des populations qui, plusieurs siècles avant, avaient fui la région, nos régions, pour s'installer soit en Yougoslavie, soit au centre de la Turquie. Il y avait eu des invasions ici dans nos régions. Alors, ce sont des populations qu'on retrouve encore aujourd'hui, maintenant, parmi les Turcs, avec les yeux bleus, cheveux roux, etc., les yeux verts, peau très blanche. Voilà. Galates dépourvus de sens. C'était des chrétiens. Mais qui ont perdu les pédales. Des prédicateurs sont venus pour leur dire il faut réappliquer les règlements de Moïse, les 10 commandements et tous les rites traditionnels du judaïsme. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, Paul avait prêché, et Jean aussi, et d'autres apôtres, un Jésus de la croix, et rien d'autre. Rien d'autre pour le salut. Et ce serait l'objectif de mon message d'aujourd'hui. Rien d'autre. Voici, et c'est suffisant, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi, donc application de règlement, etc. Comme dans le temps j'étais éduqué, on ne mange pas de viande le vendredi, on mange du poisson. Il faut aller à confesse. Il faut dire ses péchés. Il faut faire ci, il faut faire ça. Hein? Tout ça en croyant que c'était nécessaire pour être sauvé. Or, c'est seulement la parole de Dieu qui nous sauve. Et la croix de Jésus. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit Saint, donc commencé dans la vraie vie, par la prédication de Paul et de Jean, qui ont parlé de Jésus mort et ressuscité, ils ont commencé à vivre dans l'Esprit Saint. Voulez-vous maintenant finir par la chair, donc vivre humainement, comme des religieux? Et il n'y a plus de signe de l'Esprit Saint? Il n'y a plus de signe d'autorité de Jésus ressuscité en vous? Il n'y a plus que des signes de religion? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, l'Esprit Saint, et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, la prédication de la foi, rappelez-vous ce texte de Romains chapitre 10, c'est Jésus et son sacrifice à la croix qui touche mon cœur et qui me sauve. Et si je crois à cela et que je le dis, je le confesse à Dieu, j'en confesse aux autres, je suis sauvé. Cela suffisait. Et Paul est venu redire cela dans les églises de Galatie, qui étaient en train de se perdre dans tous les méandres de la religion. Chers frères et sœurs, j'en termine avec un texte de Galates juste à côté, au chapitre 2, au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul, lorsqu'il a vraiment accepté Jésus, a tout abandonné. C'est comme si lui-même, quelque chose en lui était mort. Sa religion, son fanatisme, tous ses principes sectaires, son légalisme, son orgueil, sa violence. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, tout ça est mort en moi. Le jour que Jésus est mort à la croix, tout ça est mort. Aussi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans une condition humaine, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, donc dans la confiance, dans l'abandon qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Les amis, que Jésus vous garde. Soyez tout proche du message de l'Évangile et ne vous en écartez pas. Et aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Si certains qui n'ont pas accepté le Seigneur, je vous le dis, il y a des paroles extrêmement importantes qui le disent. Hébreux chapitre 2, pour ceux qui ne sont pas encore à Jésus, je voudrais lire ceci. C'est arrivé à toute époque que quand des prêcheurs, comme moi, hein, des prédicateurs, enfin, même des chrétiens tout simple, qui annoncent l'Évangile clairement, hein, et qui sont vraiment des porteurs de l'Évangile, quand ils parlent, il est arrivé qu'il y avait des croyants en face d'eux, mais aussi des incroyants, des gens qui encore n'avaient pas accepté Jésus, n'avaient pas été transformés par la grâce. C'est normal. Eh bien, dans Hébreux, chapitre 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et la chair, c'est-à-dire à condition humaine, Jésus y a participé également lui-même, afin que par la mort à la croix, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je lui ai dit que Satan avait perdu la partie au Golgotha et à la résurrection de Jésus. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus en servitude. La peur, les tourments. Assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, c'est à la postérité d'Abraham. Alors, quand tout cela est dit régulièrement par Apollos dans l'Épître aux Hébreux, il essaye que les auditeurs écoutent. Mais seulement pas écoutent, entendent. Il y a une différence entre écouter. Entendre, c'est laisser rentrer en soi l'effet de la parole. Et chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La parole de Dieu, donc celle de l'Évangile, de celle que je viens de vous expliquer, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments de chacun de nous et les pensées du cœur. Chers amis, si vous n'êtes pas encore chrétien, ou si vous êtes chrétien et que vous avez été en marche arrière, laissez le message que je vous ai donné, qui n'est pas moi, ce message rentrer dans la jointure et de vos os, dans la moelle. Et cette parole juge les sentiments et pensées cachées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes sous le regard du Seigneur. Nous sommes sous le regard d'amour du Seigneur, le regard de vérité. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'endurcir. Il ne faut pas se laisser séduire par soi-même. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Donc, il parle ici à des chrétiens. Et incrédule, donc qui a fait demi-tour, qui se laisse aller. Hein? Au point de se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous, poussez-vous les uns ensemble, avec le respect bien sûr, et l'amour, on ne peut forcer personne dans l'évangile. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, parce que demain peut-être je meurs, je ne peux plus dire aujourd'hui. Aussi longtemps que je peux dire aujourd'hui, parce que demain peut-être je ne le dis pas, ni vous. Alors, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il y a quelque chose en nous qui veut nous séduire, c'est notre moi-je. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ne choisissons pas la révolte contre Dieu. Choisissons la paix avec Dieu. Prenons la paix que Jésus nous offre et son amour qui nous change complètement. Soyez bénis, chers amis, chers frères et sœurs, et vous qui peut-être l'êtes ce soir ou demain, ou tout de suite, soyez bénis.